Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Au moment où sort en salle l'adaptation du roman polyphonique de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants, qui traite de la greffe d'un cœur, il n'est pas inutile d'écouter à nouveau les propos de l'auteur que nous avions rencontré à la publication de son livre. L'adaptation subtile qu'a fait Katel Kieveré est un bel hommage au roman initial et la distribution des personnages assez réussie. Mais il y manque la dimension intérieure qu'installe le roman par rapport à son lecteur. La différence entre le cinéma et la littérature est patente. L'image et les mots n'ont pas le même écho chez le spectateur ou chez le lecteur. Alors écoutons ou réécoutons Maëlys de Kerangal, lisons ou relisons son roman multifictionnel, voyons ou revoyons son adaptation cinématographique. C'est une merveilleuse occasion de mieux apprécier les différences entre langage littéraire et langage cinématographique. Alors quelques mots pour vous présenter Maëlys de Kerangal. C'est une Normande, puisqu'elle a passé son enfance au Havre, bien que née à Toulon. Elle est fille et petite-fille de capitaine au long cours. Elle a étudié l'histoire, la philosophie, l'ethnologie. Elle a pas mal voyagé. Elle a notamment fait 2 voyages aux États-Unis. Et donc, elle est revenue avec la mémoire pleine pour publier son premier livre en 2000. Le livre s'intitulait « Je marche sous un ciel de traîne », suivi en 2003 par « La vie voyageuse »,« Ni fleurs ni couronne » en 2006, « Corniche Kennedy » en 2008 et en 2010, « Naissance d'un pont » qui obtint le prix Médicis. En 2012, elle publie « Tangente vers l'Est », qui est le récit d'un voyage en Russie, notamment vers la Sibérie. Et en 2014, donc, elle publie « Réparer les vivants ». Elle est un autre membre du comité de rédaction de la revue Inculte. Alors, Réparer les vivants, à ce titre, nous y reviendrons avec Maëlys de Kerangal, mais c'est 24 heures du temps qui se passe entre la mort d'un être humain et la transplantation de son cœur dans le corps d'un autre. Ce livre, c'est une sorte de chant polyphonique incarné par tous les personnages, absolument tous les personnages qui sont impliqués dans ce roman de gestes, de mots, d'allées et de retours, de physique et de métaphysique, et qui, lorsqu'on l'a pris, ne nous lâche plus. Maëlys de Kerangal, d'où vient ce titre? C'est une citation d'un célèbre auteur russe.
Qui était médecin également, Anton Tchekhov. C'est une citation de Platonov. Et c'est la deuxième partie d'ailleurs d'une réplique en fait. Hein. C'est que faire Nicolas et Nicolas répond enterrer les morts, réparer les vivants.
Voilà. Alors, le titre, il y a la référence à Tchekhov. En même temps, si on n'est pas très attentif, on se dit qu'on va avoir affaire à un texte un peu médical, un récit qui raconte, on a compris qu'il s'agissait d'une, au moins lien dans la quatrième de couverture, qu'il s'agissait du récit d'une transplantation. Et quand on lit le livre, alors là, on s'aperçoit qu'on a affaire à carrément autre chose. Une espèce de plongée dans un univers global, une sorte de livre total, une sorte de polyphonie de gestes et de voix. C'était déjà le cas dans Naissance d'un pont. Est-ce que là, vous pensez... j'ai eu l'impression quand même que vous atteigniez une espèce de forme un peu idéale de ce que vous recherchez peut-être.
Alors, dans Naissance d'un pont, il y avait déjà effectivement l'idée que le roman orchestrait une polyphonie, en tout cas une geste collective, qui avait une dimension technique, et finalement où un groupe d'hommes et de femmes convergeaient en un lieu donné pour construire un pont dans une dimension politique, économique, technologique, etc. Dans ce livre-là, c'est vrai que le Réparer les vivants, je pense, capitalise un peu, je veux dire, cette espèce d'expérience de naissance d'un pont qui a été pour moi une expérience d'écriture très très forte. Et je pense qu'il y a des choses qui sont issues de ce livre, dans la mesure où en plus j'écris les livres les uns après les autres, et que je pense qu'ils s'écrivent quelque part dans un ordre qui est celui de ma recherche. Il y a assez peu de livres qui sont totalement latéraux. En fait, ils suivent, pour moi, il y a une espèce de logique. Mais je pense que dans ce livre-là, il y a quelque chose en plus qui est peut-être ce dont vous parlez quand vous parlez d'une espèce de forme idéale, c'est que à la technique répond quand même un questionnement plus métaphysique, et au collectif répond aussi de façon plus focalisée les interrogations individuelles de chacun. C'est-à-dire qu'il y a de l'intériorité, il y a du sujet, il y a de l'individu, alors que dans Naissance d'un pont, je pense que les personnages n'étaient pas encore totalement des sujets. Ils étaient impliqués dans quelque chose qui les dépassait, mais d'eux-mêmes, de leurs interrogations, de cela, on ne savait pas encore grand-chose. Enfin, c'était peut-être parfois clair pour moi, mais moins présent dans le livre. Et c'est pour ça que ce sujet-là, à mon avis, ce roman-là, il déboucle, il déplie autre chose encore.
Mais d'ailleurs, dans le même sens, ce qui est frappant, c'est que j'ai presque envie de dire, il n'y a ni intériorité ni extériorité. On plonge dans cette chanson de gestes un peu, et on est pris par les diverses trames de chaque personnage qui s'interpénètrent et se répondent.
Oui, alors il n'y a pas d'intériorité et d'extériorité, au sens où le livre n'est pas du tout un livre fragmenté avec des points de vue, d'énonciations très posées, et puis des chants. On est dans un espèce de, je dirais, de, comme vous le disiez, c'est un étrange voyage. Hein, on est plongé dans une sorte de bain organique, c'est un flux, finalement, une matière de pensée, de gestes, de paroles, de citations, parce que le livre cite quelques poèmes, quelques textes. Donc, c'est une façon aussi de dire que il rebrasse un peu des choses qui se sont déposées dans notre culture et qui sont des motifs que l'on porte en nous. Et en fait, il est beaucoup plus, moi je le vois beaucoup plus comme un espèce d'écosystème organique où effectivement le lecteur se plonge et finalement, comme le surfeur capte une vague et une fréquence et je l'espère gagne la fin du livre, qu'un livre où, si vous voulez, il y a effectivement des temps d'intériorité, des temps d'extériorité, avec quelque chose de très d'un dispositif très sophistiqué autour des points de vue. Je pense que on est dans une autre, on est dans une matière différente dans ce livre-là.
Alors, je me suis demandé pourquoi avoir choisi, si tant est que vous l'ayez choisi, ou est-ce que ça s'est imposé à vous, ce sujet-là? Est-ce que c'est le sujet a déclenché cette forme-là, ou en partie, ou est-ce que vous l'avez trouvé en chemin?
Alors, le sujet, il s'est cristallisé à une vitesse assez fulgurante. Mais un sujet, c'est toujours, finalement, un récit ou une phrase qui pourrait, qui à un moment donné apparaît et qui pourrait prendre en charge une émotion à un temps donné. C'est-à-dire que le sujet n'est jamais premier, c'est-à-dire que, vous voyez, l'idée de « je vais écrire un livre sur la transplantation cardiaque », c'est pas, si vous voulez, ça ne surgit pas comme ça. Il se trouve que moi, j'étais dans une émotion particulière parce que voilà, des proches étaient morts, et que je pense que j'étais d'ailleurs en train d'écrire un autre livre, et que au sein de ce livre-là, j'ai ressenti à un moment donné le besoin de dévier de ce projet, parce que ce qu'on écrit est forcément affecté par ce qu'on vit, hein, ça aussi, il n'y a pas d'étanchéité, et qu'à un moment donné, je me suis dit, l'urgence pour moi, c'est d'arriver à exprimer quelque chose qui serait une expérience de la mort. Hein. Donc j'ai commencé à partir sur cette idée de parler de la mort. Et évidemment, il faut trouver assez... Ce sont d'abord des matières qui apparaissent ou des espaces. Donc là, c'est l'idée d'un livre totalement mat, par exemple, d'un livre assez dépeuplé, où les rues seraient un peu vides, le ciel blanc. Ça, c'est vrai que c'est, pour moi, il s'est très vite situé au Havre. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont cristallisées. Et c'est vrai que très vite, je me suis dit, je vais écrire le roman d'une transplantation cardiaque. En quelques jours, vous voyez, ça s'est instauré. Surtout dans la mesure où je pense que j'avais besoin de métaboliser, comme souvent chez moi. Je ne pars pas d'un matériau autobiographique que je restitue de façon brute ou qui est très lisible dans mes livres. Il est souvent d'ailleurs intraçable. Et donc, en fait, la manière que j'ai trouvé, la forme que j'ai trouvée pour exprimer ce que je ressentais, notamment cette interrogation sur la mort, mais aussi le désir que j'avais de donner un champ de vie, c'est devenu ce livre-là, le livre de cette transplantation cardiaque. C'est à ce moment-là que le sujet s'est totalement déposé, j'en ai eu conscience, et je suis allée vers lui. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé ce sujet-là. Mais je veux dire par là, vous voyez, c'est pas... je cherche un sujet de roman, ça serait pas mal ça. Vous voyez, ça se passe pas comme ça. C'est d'abord une émotion qui donne lieu à des matières, à des couleurs, à des espaces. On est porté vers... et d'ailleurs, dans mes autres livres, ça marche un peu comme ça. C'est des désirs littéraires d'abord d'exprimer, je sais pas, le grouillant, la foule, le profus, beaucoup d'accueil, par exemple, pour Naissance d'un pont, je me disais, c'est un livre où on sera tout le temps dehors. De fait, il y a très peu de scènes d'intérieur. Et c'est très différent, un livre où on est dans les paysages ou un livre où on est dans les maisons. C'est pas les mêmes livres. Et pour moi, ça, c'est des découpes très importantes. Un livre où on est bras nus ou un livre où on est... c'est très important.
Alors, il y a une caractéristique qu'on voit tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de personnages secondaires. Il n'y a quasiment que des personnages principaux.
Oui, ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que malgré tout, dans ces collectifs, on s'obstine souvent à essayer de déceler lequel serait le plus important. Et il y a des personnages qui sont peut-être en avant, hein, qui sont un petit peu plus en avant, qui émergent davantage, mais ils ne sont pas pour autant des personnages principaux. Il n'y a pas de personnage principal. Et je pense que dans ce collectif, il n'y a quasiment pas de personnage dont on pourrait se passer. Enfin, moi, je pourrais me passer d'aucun, mais je pense que même la petite sœur qui fait une apparition très fugace, elle, à un moment donné, elle introduit quelque chose d'assez violent et d'assez fort dans le livre. Elle ponctue, elle tient sa place dans ces pages où elle est là. Même Rose, la jeune actrice, elle est là pour dire que... Voilà, que la fiction s'invite dans l'apprentissage d'un savoir scientifique, par exemple, puisqu'on fait appel à des comédiennes pour apprendre la médecine. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, je pense que tout le monde... Et du coup, Rose, elle est comme mon avatar romanesque, finalement. Même les Chardonnerets, ils sont importants dans la mesure où ils chantent un paysage, et c'est peut-être aussi ce qu'essaye de faire la littérature, de chanter... un paysage qu'on pourrait garder dans la mémoire, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est important pour moi de que ce soit bien compris que ce collectif, c'est une unité qui fonctionne de façon totalement raccordée. Il y a une forme de relais. Hein, Révol appelle Rémiche, qui appelle Carrar, et que finalement tous ces gens ont une place, et que s'il y en a un qui sort de la chaîne, cette espèce de migration, elle est interrompue, ou elle peut aussi, il peut y avoir une espèce de chute, hein, parce que moi je voyais ça quand même comme une espèce de migration, et donc c'est vrai que l'idée que ça tombe, quoi, s'il y a quelqu'un qui n'est pas là, finalement, ça, si quelqu'un n'est pas à son poste, finalement ça tomberait. Et puis je pense aussi que moi qui ai du mal à dire je, qui ne dis pas je dans mes livres, qui a du mal à me trouver également un personnage, par exemple féminin de mon âge, etc., qui pourrait, ou masculin, etc., mais je veux dire par là, un personnage qui pourrait m'incarner, C'est vrai que je passe par une espèce de faillage de moi-même, c'est-à-dire je me faille dans tous ces personnages.
J'allais dire, ils vous incarnent tous.
Oui, j'ai l'impression que, en tout cas, je suis autant dans Lou que dans Sean ou dans Harfang. C'est une façon pour moi de me diffracter et de les habiter tous, en fait.
Si je vous dis que, alors ça, sans faire un mauvais jeu de mots, que c'est un roman d'amour.
Mais c'est un roman d'amour. Ça peut. C'est un roman d'amour. C'est un roman d'amour d'ailleurs qui. C'est un roman d'amour qui d'ailleurs feuillette diverses formes de l'amour, puisque d'abord il est question de l'amour. C'est-à-dire il est question d'abord de l'amour que peut porter des parents à leur enfant, de l'amour que portait un jeune homme à la jeune fille dont il est amoureux. Il est question aussi de... Donc ça, ce sont des amours, j'allais dire, qui...
Identifiés, disons.
Oui, avec une espèce de romanesque. En même temps, Cordélia, elle est dans une passion plus sexuelle, qui est aussi peut-être une forme... qui est petite aussi une forme d'amour, mais là où il y a beaucoup d'amour, c'est, je pense, dans la manière dont Thomas parle aux parents, dont les gens se comportent les uns avec les autres. C'est un livre qui fait de l'empathie un amour, en fait, qui fait de l'empathie une fraternité possible. C'est un livre sur la délicatesse, d'une certaine manière, pour moi. Et après, il y a peut-être ce geste d'amour ultime qui est celui du don, qui est... que l'on peut tout à fait d'ailleurs décoller de sa symbolique chrétienne en disant qu'il s'agit aussi de recollectiviser un corps et de le rendre à la communauté pour qu'il aille en réparer d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez qui y a une espèce de traçage de l'amour dans ses diverses formes. Et pour moi, c'est important que le livre soit vu comme ça. On ne me l'a jamais dit, mais ça me fait vraiment plaisir.
Parce qu'au fond, il y a le récit lui-même de la transplantation, mais qui établit des liens entre tous ces personnages. Mais ce qui circule le plus, c'est l'amour, précisément. Ouais. C'est ce qui les lie, au fond.
Oui, parce qu'en fait, dans toute cette, geste, qui est un protocole, hein, qui est un processus, donc... le livre, il déroule, il déplie quelque chose. C'est pour ça que l'idée de la vague, elle est intéressante, parce qu'elle elle colle très bien à cette idée de... Oui, elle colle très bien à ces idées de livres qui sont des protocoles, en fait. Hein. Il s'agit de conduire une action ensemble. Hein. Pour autant, qu'est-ce qui circule entre tous ces gens? Je pense que c'est... quelque chose qui s'appellerait l'altérité, l'empathie, la fraternité, la délicatesse. Et chacun sont un des autres noms de l'amour, en fait, pour moi.
Alors, il y a un truc qui est assez fascinant, qui déjà m'avait pas mal fasciné dans Naissance d'un pont, c'est la précision de ce que vous décrivez, enfin du milieu dans lequel se déroule le livre. Alors là, la médecine, dans Naissance d'un pont, c'est travaux publics, en plus il se trouve que c'est un sujet que je connais un petit peu. Au début du livre, le milieu du surf, on dirait que vous avez surfé toute votre vie et que vous racontez ça avec une aisance extraordinaire.
Alors j'ai des connexions familiales parce que mes frères sont surfeurs,
mais pour la médecine.
Mais sinon, je connais pas bien. C'est-à-dire que c'est l'idée... d'ailleurs, c'est une question... C'est une vraie question littéraire, ça. C'est est-ce qu'on a besoin, soit, d'avoir... j'ai pas forcément de réponse. Hein, d'avoir des expériences autobiographiques pour les décrire. C'est la question de Scorsese à De Niro, dans l'idée quand il va prendre 30 kilos pour jouer Raging Bull, ou ces femmes qui se... tonde les cheveux pour jouer une Jerry américaine, enfin voyez. Alors, a priori, moi je pense que tout peut s'écrire en chambre, hein, d'une certaine manière. Enfin, y a rien ne s'oppose à ce que finalement, si vous voulez, sur la transplantation cardiaque, tout est sur Internet, la moindre J'imagine que la moindre opération, elle est sur le net. L'Agence de la biomédecine a un site qui est extrêmement vivant, fourni, riche. Et il y a des gens qui témoignent, il y a des sites où il y a des gens qui témoignent. Donc au fond, du point de vue documentaire, est-ce qu'il faut vivre les choses? Est-ce qu'il faut avoir fait du surf? Moi, je me souviens quand j'avais écrit Corniche Kennedy et que j'allais à Marseille dans les classes, les élèves me disaient... mais vous n'avez pas sauté, vous n'avez jamais plongé. Et il y avait une grande déception. C'est l'idée que, en fait, la oui, figure oui. du héros est compactée avec celle de l'auteur, en fait, qu'il n'y a pas tous ces filtres. Mais quand même, à cette réponse, j'apporte des nuances. Parce que moi, pour le coup, ce que j'aime, c'est partir en étrangère. Et donc, arriver en étrangère dans le livre auquel je m'intéresse. Et du coup, il y a une dimension de recherche qui pour moi est vraiment intéressante.
C'est la de voyage,
le moment où, voilà, d'aller moi-même sur des zones où j'ai jamais, dans des zones où j'ai jamais été, m'approprier des savoirs, alors de façon extrêmement subjective et imparfaite, etc. Mais voyez quand même, au moment où je démarre ce livre, moi je sais absolument pas ce que c'est que la mort encéphalique, par exemple. J'ignore que l'on a redéfini la mort en 59. Je pense même que c'est le cœur battant qui désigne un corps vivant ou un corps mort. Vous voyez, j'ai pas du tout de savoir particulier sur le pont. J'en avais encore moins. Alors. Il y a une dimension épique déjà qui est d'aller dans ces domaines et d'aller déjà chercher à comprendre. Parce que ce qui est sûr, c'est que finalement, s'il y a bien une chose à laquelle on n'est pas forcé dans la vie, c'est d'écrire un roman sur la transplantation cardiaque. Enfin, franchement, personne. Donc, du coup. Dans la mesure où c'est une entreprise, je me dis que moi je vais le faire. La moindre des choses, c'est quand même de s'y intéresser. Et c'est vrai que moi j'ai essayé quand même d'aller rencontrer des gens, d'éviter la documentation livresque, trop livresque, mais en revanche d'aller rencontrer des gens. Alors j'ai été à l'Agence de la biomédecine pour essayer de comprendre, enfin de rencontrer la personne qui avait, si vous voulez, établi ce... Enfin, qui pouvait me parler de ce logiciel établissant la compatibilité entre donneur et receveur, qui est quand même une chose assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a un pôle national de répartition des greffons, et là, si vous voulez, il y a des espèces de critères logiques. Je voulais savoir voilà, comment on attribuait ça. Je voulais savoir aussi comment se déroulaient les opérations. Alors, j'ai pas du tout demandé à assister à un prélèvement parce que, voilà, je pense que j'avais pas besoin de tout voir non plus. Que c'est aussi une opération que j'ai beaucoup, qui pour moi est le sens de ce livre. C'est le don, c'est le moment où on va. C'est le rapport au corps et à la sacralité du corps qui se joue dans cette scène. Et finalement, j'ai demandé en revanche, ou accepté, en tout cas je suis allée à la Salpêtrière rencontrer le professeur Le Prince qui m'a proposé d'assister à une greffe. Et ça, j'ai dit oui. Et si vous voulez, évidemment que je pense que dans le livre, l'opération de réimplantation du cœur de Simon dans le corps de Claire n'est pas différemment traitée que le prélèvement, c'est-à-dire qu'elle est plutôt même plus courte. Mais en revanche, la chose qui est importante, c'est que c'est un moment où, si vous voulez, moi j'ai capté l'hôpital, une ambiance de nuit, etc. Et surtout, j'ai eu le sentiment que cette opération que je voyais en février, écrivant le livre dans l'ordre, je les ai écrites en juin. Et je pense que c'est pas tellement... Ça intervient pas forcément sur les pages elles-mêmes, le fait d'être allé, d'avoir fait cette enquête. Ça intervient sur le rapport que je construis avec mon livre, qui pour le coup est peut-être celui d'être sortie à 5h du mat, avoir traversé toute seule, en me demandant un peu qu'est-ce que je venais de voir, cette espèce d'émotion très forte qui a été la mienne, elle a aussi, je pense, travaillé quelque chose, et elle, évidemment que c'est pas plus décrit, ce que j'ai vu n'est pas mieux ou plus décrit que ce que je n'ai pas vu, mais en revanche, je pense que le fait d'y être allé, pour moi, notamment en termes d'expérience des espaces et climatiques, etc., parce que bon, c'est des espaces assez cryptés et illisibles hein, pour moi, les écrans, un bloc. Mais néanmoins, j'ai pu voir comprendre des choses, en tout cas ressentir, expérimenter des lieux. Et ça, je pense que ça a été finalement très important et que ça a joué sur tout le livre, si vous voulez. Pour moi, c'était ça qui était important. Et je pense que. Après, moi, je reste fondamentalement convaincue que sans que la fiction soit un espèce de joker qui autorise à dire n'importe quoi, le roman, la fiction, c'est davantage le lieu de la vie que le lieu du réel. Si vous voulez, pour moi, mon objectif, il n'est pas de restituer le réel recta, mais en revanche, il est d'instaurer de la vie dans le texte, et en tout cas d'aller la chercher. Et cette vie-là, je ne pense pas qu'on puisse la capter sans précision. Si vous voulez, pour moi, la précision, c'est ce qui va arracher finalement le sujet au flou de son indétermination, etc. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de connaître le sujet pour pouvoir s'en éloigner, justement pour pouvoir caler les paramètres fictionnels. Et voilà, je pense que c'est à la fois le rapport que je construis avec mon travail, à la fois cette idée de l'étrangeté et de la connaissance, et enfin c'est aussi une façon pour moi, malgré tout dans la conquête du documentaire et de la précision, toujours un moyen de réaffirmer la puissance du roman, et que le roman c'est mon lieu. Vous voyez que c'est là que je suis.
Tout de suite, un extrait du texte lu par l'auteur.
La voix de Virgilio, haussée dans le bloc, bien qu'étouffée par le masque, fait sursauter Thomas. « Non, attendez !» Il a crié. Les regards se tournent vers lui, les mains s'immobilisent au-dessus du corps, bras cassés en angle droit, on suspend l'intervention tandis que le coordinateur se faufile pour accéder au lit et s'en approcher à hauteur de l'oreille de Simon Limbre. Ce qu'il lui murmure alors, de sa voix la plus humaine, bien qu'il sache que ces mots s'abîment dans un vide létal, est la litanie promise, celle des prénoms de ceux qui l'escortent. Il lui chuchote que Sean et Marianne sont avec lui, et Lou aussi, et Mamé. Il lui murmure que Juliette l'accompagne. Puis, Thomas sort de sa poche les écouteurs qu'il a stérilisés et les insère dans les oreilles de Simon, allume le baladeur, piste 7, et la dernière vague se forme à l'horizon, en avant des falaises. Elle monte jusqu'à envahir tout le ciel, se forme et se déforme. Déployant dans sa métamorphose le chaos de la matière et la perfection de la spirale, elle racle le fond de l'océan, remue les couches sédimentaires et secoue les alluvions. Elle découvre les fossiles et renverse les coffres, divulgue ces invertébrés qui approfondissent l'épaisseur du temps, ces ammonites à coquilles de 150 millions d'années et ces bouteilles de bière, ces carcasses d'avions et ces armes de poing, ces ossements blanchis comme des écorces, le fond sous-marin aussi passionnant qu'un gigantesque dépotoir et une pellicule ultra-sensible. Une pure biologie. La vague lève la peau de la terre, retourne la mémoire, régénère le sol où vécut Simon Limbre, la dune douce au creux de laquelle il partagea une barquette de frites à la moutarde avec Juliette, la pinède où ils s'abritèrent durant le grain et les bambous juste derrière, des hampes de 40 mètres au balancier asiatique. Ce jour-là, les gouttes tièdes perforaient le sable gris et les odeurs se mélangeaient, acrées salées. Les lèvres de Juliette avaient cette fois-ci la couleur du pomelo. Puis enfin, elle explose et s'éparpille. Les éclaboussures voltigent, c'est une conflagration et un scintillement. Tandis qu'autour du lit opératoire, le silence s'épaissit. On attend, les regards croisent au-dessus du corps, les orteils piétinent, les doigts patientent. Mais chacun admet que l'on marque un temps à l'instant d'arrêter le cœur de Simon Limbre. La piste achevée, Thomas ôte les écouteurs et retourne à sa place. De nouveau. On peut clamper ? Clampage. Le cœur s'arrête de battre. Le corps est lentement purgé de son sang, lequel est remplacé par un liquide réfrigéré qui, injecté à fort débit, va rincer les organes de l'intérieur, tandis que des glaçons sont immédiatement disposés autour d'eux. Et sans doute qu'à cet instant, Virgilio jette un œil sur Alice Arfang afin de voir si elle n'est pas en train de tomber dans les pommes. car le sang qui s'écoule du corps se déverse dans un bac, et la matière plastique du réceptacle, amplifiant les sons comme une chambre d'écho, c'est bien ce bruit, plus que la vision, qui impressionne. Mais non, la jeune fille est là, parfaitement stoïque, quoique le front blême, et perlant de sueur. Si bien qu'il se remet au travail, le compte à rebours s'amorce.
Voilà, extrait de « Réparer les vivants » de Maëlys de Kerangal, publié aux éditions Vertical. Le film de Katell Kiyevere, lui, est projeté actuellement au cinéma Diagonal. À la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.